Tout pour investir, le placement à suivre.
Le placement à suivre est l'œil de JP Morgan. Nous recevons Lilia Pétavin, bonjour, de JP Morgan Asset Management.
Bonjour Antoine.
Content de vous revoir à nouveau. La question qu'on se pose, et on aimerait bien avoir votre point de vue, on parle d'une certaine forme de complaisance sur les marchés. On est dans une tornade géopolitique assez imprévisible. On a quand même des perspectives en matière d'inflation, en matière de croissance, qui donnent pas envie de vraiment sourire et plutôt de rester prudent. Malgré tout, voilà, on a des indices américains qui battent des records. On a un CAC 40 bon, qui se comporte pas si mal, même s'il y a un vrai écart de performance. Voilà, en même temps, il y a les taux obligataires qui commencent à poser problème. Bref, on a un nœud d'inquiétude et pourtant les marchés marchent bien. Est-ce que vous pensez qu'on est encore avec une forme de complaisance ?
Non, pas réellement. C'est vrai, vous l'avez dit, l'ensemble des indices actions ont effacé les pertes qu'ils avaient subies après le début du conflit en Iran à la fin du mois de février. Le S&P bat des records toutes les semaines. Il est actuellement 5% au-dessus du niveau qu'il avait avant le début du conflit. Mais cela me semble plutôt rationnel pour trois raisons principales. Un, il ne faut pas oublier que les marchés actions sont différents de l'économie. Donc, la croissance économique ralentit. La France est un excellent exemple. Il n'y a pas eu de croissance économique en termes de croissance du PIB au premier trimestre. Et pendant que la croissance économique ralentit, nous voyons les anticipations de bénéfices du CAC 40 être révisées à la hausse. Parce que le poids du secteur de l'énergie est important. En Europe, le secteur de l'énergie a vu ses anticipations de bénéfices être révisées à la hausse de plus de 40% depuis le début du conflit. Donc ça vient booster les profits d'indices actions tels que le FTSE 100 au Royaume-Uni ou tels que MSCI LATAM dans les marchés émergents. Par ailleurs, deuxième point, je pense que le risque d'avoir une récession structurelle, il est relativement ancré. Ce que j'entends par récession structurelle, c'est une récession telle que celle que l'on a connue en 2008, qui est le fruit d'une correction de déséquilibres fondamentaux qui se sont créés dans l'économie, notamment lorsqu'il y a de la dette et du levier. Ce risque-là, il est faible et les investisseurs le savent. Pourquoi est-ce qu'ils ont les yeux rivés là-dessus ? Parce qu'on sait que lorsqu'il y a une récession structurelle, c'est là que nous avons un marché baissier qui peut durer plusieurs années. Si ce n'est pas le cas, alors il y a des raisons de regarder au travers de la crise énergétique en ce moment.
Oui, c'est pas que le plat n'est pas bon, c'est que l'assaisonnement mérite une correction, en fait, on va dire.
Oui, et j'ajouterais aussi que le plus de chaos il y a dans le monde, le plus d'incertitudes géopolitiques et économiques, le plus on voit de la dépense. De la dépense gouvernementale, publique, parce que les États doivent répondre à la crise actuelle et aux risques géopolitiques grandissants en assurant leur sécurité technologique, énergétique, militaire. Donc c'est une chose qui vient probablement limiter la correction et raccourcir la durée des corrections. Et on voit aussi plus de dépenses dans le secteur des entreprises.
Là, bien sûr, les capex de la high-tech américaine, par exemple, mais pas que. Les dépenses d'infrastructures, etc. Tout ça, ça stimule tout un tas de secteurs.
Exactement. On est au cœur de la saison des résultats aux États-Unis. Les hyperscalers auxquels vous faites référence, leurs anticipations de dépenses pour l'investissement autour de l'IA, elles vont être établies aux alentours de 750 milliards de dollars pour 2026. C'est 200 milliards de plus que les anticipations du début d'année. C'est 300 milliards de plus que l'année dernière. Et comme vous le dites, ça vient se refléter dans les bénéfices. Si je regarde aujourd'hui la croissance des bénéfices attendus pour les semi-conducteurs américains, elle est de 90%. La croissance des bénéfices attendus du S&P 500, elle est de 19-20% pour cette année. Ouais. La saison des résultats qui est en train de se dérouler actuellement, si elle continue de la façon dont elle a commencé, ça sera la meilleure saison des résultats depuis 2021.
Oui, ça commence à remonter, effectivement. On disait en début d'année, Il va falloir quand même peut-être, alors, soit s'alléger, soit rester sur nos positions concernant les marchés américains, et peut-être plutôt regarder du côté de l'Europe. Une sorte de diversification géographique qu'on pressentait. Hein. Est-ce que ce mouvement est déjà fini? Ou est-ce qu'il va reprendre à un moment donné à la faveur d'un ou de l'autre des catalyseurs qu'on attend sur les marchés ces prochaines semaines?
Alors, le S&P 500, les actions américaines, ont surperformé dans la correction à la fin du mois de février.
C'est ça.
Et il a surperformé aussi l'Europe comme les marchés émergents dans la reprise. Et il a été tiré notamment par les semi-conducteurs dont je parlais. L'indice de référence des semi-conducteurs, c'est le SOX aux États-Unis. Il a rebondi de 45% le mois dernier. La dernière fois qu'il a rebondi autant et si rapidement, c'était en février 2000.
Oui, c'était alors, au lendemain de la crise Internet.
Juste avant.
Juste avant,
en février. Et si je regarde Nvidia, qui est la figure de proue des semi-conducteurs, les profits de Nvidia ont cru de plus de 2000% depuis le lancement de ChatGPT à la fin du mois, à la fin de l'année 2022. C'est 6 fois plus que la croissance des profits des hyperscalers américains. Donc, est-ce que c'est soutenable d'avoir une entreprise ou un secteur qui capte de cette façon l'ensemble de la valeur générée par l'IA dans la chaîne d'approvisionnement? C'est probablement pas très soutenable sur le long terme, parce que soit les hyperscalers vont dégager plus de profits parce que la demande finale va augmenter, le business case de l'IA, la capacité des entreprises à générer des gains de productivité va être là, et auquel cas la demande va augmenter et donc les hyperscalers pourront se servir de la valeur créée dans cet écosystème, soit ça ne sera pas le cas. Et auquel cas, il va falloir revoir à la baisse les dépenses de CAPEX. Et ça viendra heurter négativement le secteur des semi-conducteurs et l'ensemble, en réalité, de l'écosystème de l'IA.
Oui, donc c'est clair que ça va provoquer un énorme déséquilibre. Juste, il nous reste une minute, Lilia. Je voudrais qu'on dise un mot. Alors, justement, vous parliez des semi-conducteurs. On a beaucoup parlé des pays émergents là, ces derniers jours. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec le syndrome Magnificent Seven dans les pays émergents, c'est-à-dire que la valeur est concentrée sur quelques zones géographiques et quelques valeurs en tant que telles, Samsung, SK Hynix ou TSMC du côté de Taïwan. Est-ce que c'est un problème pour l'intérêt vis-à-vis des zones émergentes ces prochains mois, cette concentration?
Je pense que dans le scénario bénin de l'IA que j'ai décrit, c'est en réalité une zone du monde qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que les marchés émergents, ce sont les fabricants de l'IA, véritablement, les usines de l'IA. Il y a beaucoup de semi-conducteurs, mais qu'ils ne se traitent absolument pas sur les mêmes multiples que les semi-conducteurs américains. Concrètement, ils sont à la moitié du niveau des semi-conducteurs américains, donc c'est intéressant. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus exclure l'idée qu'il y ait une émergence importante d'hyperscalers chinois, par exemple, qui sont peut-être plus contraints par les capacités de calcul, qui seront peut-être plus efficaces, qui vont créer un ROI plus intéressant pour les entreprises. Et j'ajouterai aussi que l'économie chinoise me semble assez bien positionnée dans les années à venir pour capter véritablement les véhicules de la croissance, à savoir la dépense militaire, énergétique et technologique. La Chine crée des data centers, des centres de données à une vitesse bien plus élevée que partout dans le monde. Si je regarde les entreprises de défense listées sur le marché chinois, la croissance attendue de leurs bénéfices est en réalité supérieure à celle des entreprises listées en Europe. Donc dans les deux cas, elle est exceptionnelle, mais elle est davantage plus rapide en Chine. Et évidemment, la Chine est aussi bien positionnée sur le secteur des renouvelables. Donc, sur le développement de la sécurité énergétique, elle est leader dans le marché solaire. Donc, c'est toute une zone qui nous semble intéressante dans un contexte positif sur l'IA. Évidemment, vous l'avez dit, MSCI IM aujourd'hui, 35% de l'indice est fait de la tech.
Forcément.
Si vous avez un problème sur la tech, vous aurez un problème sur les marchés émergents. Ça sera moins le cas pour l'Europe, qui a moins de technologie et donc est plus immunisé en cas de retournement.
Lilia Pétavin, JP Morgan Asset Management, merci infiniment d'avoir été avec nous.